Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Eli Kling pour son essai « Relever le défi, la vie et l'œuvre du natif de Vologine » qui paraît aux éditions Lishma. Bonsoir Eli Kling.
Bonsoir, bonsoir.
Alors, nous sommes ravis de vous accueillir dans cette émission. Quelques mots de présentation pour débuter. Vous êtes d'origine lyonnaise, vous avez étudié à la Yeshiva Etzraïm de Montreux. Depuis 1984, vous êtes installé en Israël et vous habitez à Kfar Maimon dans le Negev. Rabbin et enseignant, vous prodiguez votre savoir sur le Tanakh, le Talmud et l'histoire juive à des centaines de jeunes filles destinées aux carrières de l'enseignement dans une école normale pour laquelle vous dirigez la section francophone. Et puis, vous avez soutenu une thèse sous la direction du grand rabbin René Samuel Sirat, centré sur la pensée et la personnalité du natif de Vologine, qui est aujourd'hui publié. C'est donc votre actualité, la parution de l'étude « Relever le défi, la vie et l'œuvre du natif de Vologine » aux éditions Lishma. Les éditions Lishma pour lesquelles vous avez signé d'autres ouvrages, dont la biographie de votre père, le grand rabbin Kling, qui a éclairé le judaïsme français après le cataclysme de la Shoah. Le natif de Vologine a été l'une des personnalités les plus marquantes du monde juif dans la seconde moitié du XIXe siècle, recteur de la célèbre yeshiva Etzraïm de Vologine pendant une quarantaine d'années. Il a réussi à en faire le plus grand centre d'études juives de l'époque, attirant auprès de lui les plus brillants esprits de son temps. On peut citer Bialik ou le Rav Kook. Et c'est la première biographie du natif qui paraît en français. Vous répondez à plusieurs questions qu'on ne l'aurait pu se poser sur cette personnalité hors du commun, mais surtout, vous contribuez à sortir de l'oubli ce génie du judaïsme qui était plus méconnu, qui est plus méconnu que connu aujourd'hui. Alors la première question qui s'impose, Eli Kling, pourquoi avoir choisi de consacrer une thèse de doctorat au natif de Vologine?
Ouais, alors d'abord, je voulais juste dire que c'est une réédition en fait, parce que j'avais déjà publié le livre il y a très 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 longtemps, et c'était non pas le doctorat, mais c'était une maîtrise. J'ai passé au Langzog, j'ai ensuite repris plus tard. Alors évidemment, c'est une version qui est un petit peu plus mise à jour, si vous voulez. Mais dans l'essentiel, c'est le livre qui avait déjà paru il y a plusieurs dizaines d'années. Voilà. Maintenant, pour répondre à votre question, donc vous me demandiez qu'est-ce qui m'a attiré chez le natif, c'est ça?
Exactement. Qu'est-ce qui suscite votre intérêt dans cette personnalité?
Bon, mais écoutez, au départ, c'était pas, je connaissais pas plus que ça. C'est-à-dire, vous savez, en général, quand on va au Beth Knesset ou à la synagogue le Shabbat, alors on prend avec soi des ouvrages de la paracha avec des commentateurs. Alors, pour varier les plaisirs, on prenait chaque fois d'autres commentateurs. Donc, j'allais une fois avec Rashi, bien sûr, puis une fois avec le Ramban, puis une fois avec Shuev. Et puis, le Natsiv, évidemment, qui faisait partie des commentateurs classiques. Il a écrit un très joli commentaire sur le Chumash qui s'appelle « Hamek Davar », c'est-à-dire « approfondir, si vous voulez, la parole ». Donc, je prenais ce livre pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il disait. Et puis, au fur et à mesure, le temps passant, ben, je me suis aperçu que c'était quelqu'un qui avait des idées originales. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser au personnage. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il s'agissait en fait de quelqu'un qui a ceci de particulier, c'est qu'il n'a jamais quitté finalement Vologine. Bon, il est né à Mir, d'accord, mais enfin...
Alors justement, on va en dire un mot, puisqu'il oui. Naît Naftali Zvi Yehuda Berlin. C'est son vrai nom, Onatsi, oui, fils du Rabbi Yaakov Berlin. Oui. Il est né à Mir, oui, qui est évidemment renommé pour sa célèbre yeshiva. Et après, oui, sa bar mitzvah, une ou deux ans après, il rejoint la yeshiva de Vologine. Et il ne se doute pas que son destin va être lié à cet établissement jusqu'à sa fermeture. Est-ce que vous pouvez nous, oui, brosser les grandes lignes de sa biographie?
Oui. Alors, la yeshiva de Mir n'existait pas encore. Hein. C'était justement, la yeshiva de Mir, c'est une de ces yeshivot qui va être créée sur la lancée de Vologine. En fait, la yeshiva, on a fait en fait la Emma yeshivot, la mère des yeshivot, c'est Vologine. Alors, la biographie du natif, elle est assez facile à faire, hein, puisqu'il est resté jusqu'à l'âge de 13-14 ans chez son père. Et là-bas, il a fait évidemment ses premiers pas dans la Torah. Et puis ensuite, il a été, si vous voulez, choisi. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Il était choisi par le Rosh Yeshiva, donc le directeur de la Yeshiva de Volhogine, pour venir étudier chez lui parce qu'il avait derrière la tête l'intention également d'organiser un shidduch, d'organiser donc un mariage entre le jeune Naftali Tzvi Yehuda et la propre fille du Rosh Yeshiva. Alors pourquoi est-ce que le Rosh Yeshiva avait choisi justement la famille du Paris? Bon, le latin, il ne le connaissait pas. Mais bon, c'était une famille qui était très connue là-bas à Mir et qui est à la fois une famille assez aisée, assez riche. En même temps, c'était une lignée de gens qui avaient, à part le monde des affaires, c'était également le monde de la Torah aussi. Et donc, ça correspond très bien à ce que lui cherchait pour sa fille. Donc, en fait, c'est dans cette idée-là qu'il est allé voir la famille Berlin. Alors évidemment, le père de Naftali était très honoré que le Rosh Yeshiva lui ait donné sa fille en mariage à Naftali Tzvi Yehuda. Oui, tout ça semble aujourd'hui un petit peu curieux comme procédé. Mais à l'époque, ça se faisait couramment. Donc, il arrive là-bas, il a 14 ans, il se marie pratiquement quelques mois après. Et puis, le but évidemment, à part le mariage, c'était d'en faire ensuite un enseignant à Volhogine et pourquoi pas de devenir un successeur du Rosh Yeshiva, de devenir lui-même Rosh Yeshiva. Et donc, pendant les premières années où il a étudié là-bas, à la vérité, c'était pas très concluant. Vous savez, en général, les grands génies comme ça du Talmud, ils ont toujours des grandes histoires. Qu'à l'âge de 6 ans, le bonhomme, il savait déjà, il avait une mémoire phénoménale, il avait un esprit très vif et aiguisé, etc. Et qu'on a tout de suite vu le côté génial du rabbin en herbe. Et puis là, ici, avec lui, c'était pas du tout ça. Et au contraire, il y avait une sorte de grande déception de la part du Rosh Yeshiva. Bon, évidemment, son gendre était son gendre, mais il était plus dans l'idée de le nommer ni Rosh Yeshiva, ni même enseignant là-bas, parce que il montrait pas qu'il comprenait. Et un jour, ce jeune Naftali Tzvi a entendu une conversation entre son père qui était venu le voir et le Rosh Yeshiva, dans laquelle justement ils étaient en train de dire, bon, c'est pas grave, il va rester encore peut-être que quelques mois ou quelques années, puis après, ben, peut-être qu'il prendra votre succession à la tête de votre affaire, etc. Et lui, il a entendu ça, et puis ça lui a fait comme un déclic. Il a voulu se prouver à lui-même qu'il était capable, et pas prouver aux autres, mais se prouver à lui-même. Et c'est devenu un vrai pilier de la yeshiva. C'est ce qu'on appelle un matmid, c'est quelqu'un qui vient le premier pour étudier, qui sort le dernier le soir, qui étudie tous les jours, toutes les nuits, Shabbat, les fêtes, etc. Et il s'est dit, ça va bien rentrer un jour. Et en effet, c'est rentré. Mais comme c'était quelqu'un de modeste, eh ben, il ne l'a pas raconté. Et c'est le Rosh Yeshiva, donc son beau-père, qui un jour rentre dans sa chambre où il le cherchait, et il est seul dans la chambre, et puis il voit sur sa table un certain nombre de lettres, et ses yeux se posent sur les lettres, il reconnaît l'écriture d'un des grands rabbiniers de génération, qui s'appelait Louria, et il se dit, il est très très intéressé, qu'est-ce que ce gendre a quelque chose à faire avec ce grand, il commence à lire, et il s'aperçoit que il avait à côté de lui une perle et qu'il ne s'en était pas aperçu. Depuis ce jour-là, commence donc la carrière, si vous voulez, du natif, en tant que d'abord enseignant, et ensuite à la mort de son beau-père. Alors, c'était un autre gendre qui a fait la succession, parce qu'il était plus âgé, puis il était là depuis plus longtemps, mais il avait une santé fragile, donc quelques années après, lui-même est décédé, et donc c'est le natif qui est devenu ensuite Rosh Yeshiva. Il est resté le recteur, donc le directeur de la Yeshiva, il est resté pendant une quarantaine d'années, 40 ans, jusqu'en effet la fermeture de Volhogine. Voilà, ça c'est sa biographie, en gros.
Voilà, donc Naftali Tzvi Yehuda Berlin qui devient le natif, hein, c'est les premières lettres de son patronyme. Il révolutionne en quelque sorte la yeshiva de Volhogine. Auparavant, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditrices et aux auditeurs de la fréquence juive pourquoi la yeshiva de Volhogine était une institution en monde juif? Elle était donc le lieu où la parole du Gaon de Vilna s'exprimait. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur et la yeshiva et sur le Gaon de Vilna?
Alors, ce qui se passe avec Volhogine, c'est que c'est une sorte de révolution dans le monde des yeshivot. Allez, c'est pas qu'il n'y avait pas de yeshivot à l'époque, il y avait évidemment. Seulement, la yeshiva de l'époque n'a rien à voir avec Volhogine. C'était dans un petit village juif, d'ailleurs, c'était la même chose en Afrique du Nord. Dans les communautés juives, il y avait qui se respectaient, il y avait un endroit, un Beth Midrash, qu'on appelait quelquefois yeshiva, où les jeunes venaient étudier et puis rentraient chez eux le soir. Ils étudiaient toute la journée et rentraient chez eux le soir. Et c'est le Gaon de Vilna. Dont on va dire, si vous voulez, quelques mots tout à l'heure, c'est le gardien de ville en tout cas qui a décidé de révolutionner tout ça en disant on ne peut pas avoir une influence réelle sur ces jeunes si on les perd tous les soirs, on les récupère seulement le lendemain, une fois ils sont malades, ils ne viennent pas, une fois ils arrivent en retard, etc. C'est pas comme ça qu'on peut créer réellement un monde de Torah. Et pour qu'on soit ce qu'il appelait un Ben Torah, c'est-à-dire quelqu'un qui vit la Torah de manière permanente, ben il faut qu'on l'ait sous la main, si vous me permettez l'expression, pendant plus longtemps. Et donc, il faut une yeshiva qui soit également internat. Et bon, ben, le jeune rentrerait chez lui à des moments très précis de l'année. En fait, il avait déjà fixé que ça devait être deux moments dans l'année. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. C'est-à-dire, ils rentrent chez eux pour les fêtes de Pessah, et puis ils rentrent chez eux également juste avant le mois de Elul, comme ça, entre le Tisha B'Av et le début du mois de Elul. Et le reste du temps, bah, ils sont à la Yeshiva, ils passent les autres fêtes là-bas, y compris Rosh Hashanah et Kippour. Et puis surtout, ils sont influencés non pas seulement par l'enseignement, qui est un enseignement évidemment très, très prenant de tous les instants, mais également par la personnalité de leur rabbanim et du Rosh Yeshiva, qui peuvent évidemment découvrir. Pas seulement en tant que quelqu'un qui donne des cours, mais également voir comment est-ce qu'ils se conduisent, comment est-ce qu'ils vivent. Et c'est vraiment ça qui fait, qui forme le Ben Torah, celui qui a acquis une Torah, pas seulement l'ivresse, mais également dans la vie de tous les jours. Donc c'était la révolution de Volozhin. Il n'a pas eu l'occasion, le Gaon de Vilna, il n'a pas eu l'occasion de mettre sur pied sa pensée. Il est mort avant, et c'est son élève, son disciple plus fidèle, qui s'appelle le Rav Chaim. C'est lui qui a créé la Yeshiva de Volozhin, mais il a créé donc sous la directive, en tout cas sous les conseils qui avaient été écrits par le Gaon de Vilna. Et c'est en cela que c'est une révolution, parce qu'ensuite, les grands personnages qui sont sortis de la Yeshiva et qui ont voulu rester dans le domaine de l'éducation juive ont fondé à leur tour des yeshivot un peu partout en Lituanie puis ailleurs. Et les grandes yeshivot qui existent encore aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui c'est la version israélienne, puisque là-bas il n'y a plus grand-chose, comme on le sait, et bien, ils ont gardé souvent le nom. C'est la yeshiva de Mir, la yeshiva de Slovodka, la yeshiva de, etc. C'est les yeshivot qui ont gardé le nom de leurs anciennes patries là-bas, de l'ancienne ville, hein, de Lituanie en général, puis ils viennent ensuite s'installer à Bnei Brak, à Jérusalem, avec le même nom. Mais toutes ces yeshivot-là, finalement, ce sont des enfants de la yeshiva de Volozhin. C'est elle qui a formé les premiers fondateurs de ces yeshivot-là. C'est en cela que c'est une révolution.
Alors, plus précisément, le Nativ est resté quasiment 40 ans hein, à la Yeshiva, c'est
Ouais.
bien ça?
Il est resté 60 ans, c'est-à-dire 20 ans en tant que simple élève étudiant et 40 ans en tant qu'enseignant, puis Rosh Hashiva.
Alors, dans ces 40 ans, vous expliquez, il avait un lien très, très ténu hein, avec ses élèves, il en était très proche. Est-ce que ça exprime une partie de sa popularité et qui repose aussi sur des enseignements qui sont très pointus? Il y a des ouvrages hein, que vous avez consultés du natif. Est-ce que vous pouvez nous résumer, alors c'est pas facile à l'antenne d'une radio, mais les grandes lignes qui ont fait la renommée du natif?
Alors, d'abord au niveau de la personnalité, puisqu'en effet, vous avez raison que ça jouait un rôle très important, c'était un homme qui était très très proche de ses élèves, c'est-à-dire que il pouvait dire à quelqu'un de ses élèves, tu étudies trop, tu devrais aller te reposer, t'as pas encore mangé aujourd'hui, c'est plus important d'aller manger, etc. Et puis il mettait la main sur l'épaule, et puis voilà, il y avait une sorte de proximité qui n'était pas obligatoirement, si vous voulez, voulu de manière stratégiquement voulue, qui était tout à fait naturel chez lui, quoi, où il se sentait très proche. Et évidemment, ça permet d'avoir cette relation qui est une relation qui dépasse uniquement l'enseignement en lui-même. Vous voyez, par exemple, ils étaient libres à Pessah de rentrer chez eux, mais la plupart voulaient absolument rester pour le fameux Seder de Volozhin. Donc, on allait chez le natif, et là-bas, il y avait une énorme table géante, et ça durait jusqu'au matin, etc. Et il paraît que c'était quelque chose de tellement formidable que un étudiant de Volozhin ne voulait pas rater ça. Donc, il y avait souvent ils rentraient pas chez eux à cause de ça. Et ce qui prouve l'attachement qu'ils avaient avec la personnalité. Mais à part ça, au niveau de, vous me posez la question au niveau des écrits, les écrits, il a écrit pas mal de livres, mais ce qui est intéressant, c'est que ses centres d'intérêt sont pas les mêmes que la plupart de ses collègues de l'époque et même des générations qui ont précédé ou suivi. C'est-à-dire que lui, il avait la recherche de l'authenticité. Il voulait que les textes qu'on étudie soient des textes vérifiés, authentiques, etc. Et donc, d'abord, il s'est intéressé très jeune aux textes les plus anciens, en partant du principe que plus les textes sont anciens, plus ils sont proches, si vous voulez, de la source et du Sinaï, et plus ils sont authentiques. Donc, il s'est mis à commenter des textes des Géonimes. De l'époque, c'est très, très rare d'avoir des commentaires sur les textes des Géonimes qui ont donc vécu, comme vous savez, juste après la fin de la rédaction du Talmud, vous voyez, 6e, 7e, 8e, 9e siècle, voilà. Et on l'a même vu aller jusqu'à Saint-Pétersbourg pour rentrer à la faculté, parce qu'il avait entendu dire qu'il y avait là-bas des petites veillades, il y avait des manuscrits de grands rabbinim de l'époque, et il voulait voir tout ça. Et ça, c'est vraiment très, très rare pour quelqu'un qui a été toute sa vie baigné dans un monde de Torah. Donc, c'est une personnalité très, très hors du commun à cause de cela. Également, dans la manière d'enseigner la Gemara, d'enseigner le Talmud, il se méfiait de tout ce qu'on appelle aujourd'hui le pilpoul. On l'appelait déjà comme ça, le pilpoul, c'est-à-dire une manière très, très juive, finalement, d'analyser les problèmes et de les décortiquer, etc. Et il pensait que souvent, on s'éloignait du sens premier du texte et qu'il fallait rester le plus possible proche de ce que le Talmud voulait dire et pas faire des constructions, appelez ça si vous voulez, de la gymnastique intellectuelle autour de tout ça. Donc ça, c'était l'idée. Il a également révolutionné d'une autre manière puisqu'il a instauré un cours de Chumash, un cours de Bible. Et ça semble un petit peu bizarre à l'oreille aujourd'hui, mais à l'époque, dans les Yeshivot, la vérité aujourd'hui aussi dans beaucoup d'Yeshivot, on n'étudie pas la Torah. On étudie le Talmud, mais pas la Torah directement. La Torah, les 5 livres de Moshe, elle est censée être connue déjà avant, parce qu'on l'a appris quand on était au Cheder, quand on était petit, etc. Mais la vérité, le Tanakh n'est pas un livre pour les enfants, c'est un livre pour les adultes, évidemment. Même si on l'a étudié quand on était enfant, on est passé à côté d'enseignements très importants. Donc lui, il pensait que c'était un scandale et qu'il a donc donné tous les matins, lui-même, un cours de Chumash. Et d'ailleurs, le commentaire de Chumash duquel on parlait tout à l'heure, le Ha'emek Davar, c'était, si vous voulez, un résumé des cours qu'il faisait tous les matins à la Yeshiva, en suivant le fil des parashiot.
Par ailleurs, il faut insister, son époque a été marquée par des bouleversements, même l'époque juste avant, hein, la confrontation avec les chassidim, avec les maskilim de la Scala, ou tout simplement la tentation des étudiants de la yeshiva à suivre des études profanes, ce qui était quand même compliqué, et puis l'émergence du sionisme, le sionisme naissant. Et quand on vous lit, on voit que toutes ces étapes, finalement, il les franchit assez aisément, assez facilement, il les accompagne même avec beaucoup d'intelligence et une ouverture d'esprit qui force l'admiration. Est-ce que vous
Oui,
pouvez nous en dire un
et qui étonne un petit peu, et
mot? Oui.
justement parce que voilà, c'est pas que quelqu'un comme le Rav Shimshon HaTzalir, par exemple à Francfort, est un esprit ouvert et une vision assez positive finalement du monde profane, en disant qu'au contraire, il ne faut pas empêcher les jeunes d'aller dans les facs, il faut se servir du langage universitaire pour pouvoir mieux les attirer. Je comprends, c'est Francfort, c'est une autre ambiance, quoi. Mais dans ces villes d'Europe de l'Est, dans une petite bourgade comme Volozhin, et le natif n'ayant jamais quitté finalement cet endroit, c'est quand même assez impressionnant de voir à quel point il avait compris que la solution, ce n'était pas de contrer ces différents courants modernes, mais au contraire d'essayer de voir chaque fois ce qu'on pouvait en garder, ce qu'il y avait de bon, sans rejeter tout, c'est-à-dire et le bain, et l'eau du bain, et le bébé qu'il y avait dedans. Et il a fait pour la plupart des choses, évidemment toujours en sachant jusqu'où aller, jusqu'où ne pas aller, mais enfin, il avait une vue des différents problèmes qui étaient a priori, justement sans a priori, sans préjugés. Et en fonction, il analyse. Par exemple, l'histoire du sionisme. Bon, c'est un petit peu un anachronisme de parler de sionisme, parce que Herzl n'était pas, on n'avait pas encore, il était apparu sur la scène de l'histoire, il n'y avait pas encore le premier congrès sioniste,
Oui,
il est
c'est
mort
le
avant.
proto-sionisme ou le pré-sionisme, enfin,
C'est
les
ça.
origines en tout cas.
Voilà, ce qu'on appelle les précurseurs du sionisme. Et on les appelait à l'époque les Chovevei Tzion, les amants de Sion. Et c'est des gens qui, après les pogroms de 1881, qui ont frappé toute la Russie, et ils sont donc, vous savez que ça a été tellement un choc, parce que les pogroms, on a l'impression qu'il y a eu tout le temps des pogroms, mais il y a eu tout le temps des mesures anti-juives qui ont été prises dans ces pays-là, et pas seulement là-bas. Mais des pogroms, on n'avait pas connu ça depuis très 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 longtemps, depuis que les gens rentrent dans les maisons et qu'ils saccagent tout, et qu'ils violent, et qu'ils tuent, enfin des choses qu'on n'avait pas vues. Et en 1881, tout d'un coup, il y a cette vague de pogroms dans l'Europe de l'Est, et les gens se disent, mais est-ce qu'il y a un espoir quelconque que les choses changent? Et les Juifs de ces pays-là, qui étaient les plus nombreux dans le monde, hein, les Juifs de ces pays-là ont décidé de. Alors bon, c'est ce qu'ils disaient. Il y a des gens qui voulaient devenir révolutionnaires en disant on peut rien attendre du tsar, il faut faire la révolution. Et donc ils sont devenus socialisants, socialistes, etc. Et il y en a d'autres qui ont décidé de partir qui n'avaient plus rien à attendre de la Russie. Donc, ils sont partis. C'est comme ça qu'a commencé la grande immigration, comme vous savez, vers les États-Unis. Et puis, il y a eu un petit groupe au niveau, si vous voulez, quantitatif, mais qu'il s'avéra par la suite, avec la perspective historique, que c'était un groupe très important, finalement, de gens qui ont dit non, on ne va pas sortir d'un exil pour aller dans un autre exil. Si on quitte la Russie, eh bien, c'est pour aller en Eretz Israël, donc en Palestine de l'époque. Et ils ont commencé à s'organiser. Et voyant qu'ils s'organisaient sans se connaître souvent, chaque cellule ne connaissait pas obligatoirement l'existence de l'autre, en voyant que finalement ils ont eu tous la même idée en même temps, ils ont créé un mouvement qui s'appelle les Chivat Zion, Chovevet Zion, donc les Amants de Zion. Et il y avait dans ce mouvement des gens qui étaient très pratiquants, des grands rabbinim, et puis il y en avait d'autres qui n'étaient pas du tout. Il y avait déjà des jeunes qui avaient été attirés par la Haskalah, par le mouvement des Lumières, comme on l'appelle, qui a commencé là-bas, où ils avaient déjà étudié dans certaines facultés, etc., et qui avaient tout laissé tomber. Et tout d'un coup, ces gens-là se retrouvaient de milieux différents, avec la même envie de partir en Eretz Israël pour créer là-bas quelque chose qui devra un jour servir de refuge aux Juifs persécutés du monde entier. Et c'est ce qu'on appelait finalement, avec le temps, la première Aliyah. C'est pas vraiment la première Aliyah, c'est comme ça que c'est écrit dans les livres d'histoire. Des Aliyot, il y en a eu tout le temps. Mais si vous voulez, c'est la première Aliyah agricole. Ils arrivent là-bas, ils se disent on va pas vivre de la mendicité, on va pas aller demander de l'argent aux Juifs riches de France ou d'ailleurs. On va travailler la terre et puis on va s'auto-gérer. Et ces gens-là ont commencé à créer les premiers yishuvim, les premières agglomérations en Israël. Donc tout ça, ça a été un mouvement qui a commencé par en bas, hein, c'est pas quelque chose qui est venu d'en haut. Mais quand ils ont commencé à s'organiser, à faire le premier congrès, etc., alors ils se sont donné un nom, ils se sont donné des responsables. Et à la tête de ça, il y avait des personnalités de l'époque qui n'étaient pas religieuses. Il y avait Léon Pinsker, par exemple, qui venait de faire un joli bouquin, etc. Mais lui, c'était un médecin d'Odessa qui était un petit peu déjà âgé. Et Lilian Blum, etc. Donc des gens qui n'étaient pas religieux et en même temps des gens qui leur venaient à la tête, c'était ça. Et donc, ça a un petit peu refroidi les rabbins en disant, oh là là, un mouvement, bon, d'accord, c'est le retour en Israël, ça fait partie évidemment de nos espoirs, de nos textes, mais c'est dirigé par des gens qui, il y a quelques temps encore, prônaient l'assimilation, et puis aujourd'hui, tout à coup, ils disent, non, non, il faut un réveil national, mais ils font pas Shabbat, obligatoirement, etc. Et donc, et tout de suite, dès le départ, il y a eu une division dans le monde des rabbins. Il y a eu ceux qui ont tout de suite dit ça sent le roussi, il va rien sortir de bon tout ça, laissons tomber. Et d'autres, comme le natif justement, qui au contraire a accueilli ce projet avec beaucoup d'affection, en pensant que réellement il se passait quelque chose d'historique et qu'il faut absolument accompagner tout ça. Il faut tout faire pour influencer ce mouvement pour que, arrivé en Eretz Israël, les jeunes ne laissent pas tomber l'enseignement de la Torah et des Mitzvot, que ça ne vienne pas, comme ils appelaient ça à l'époque, une nouvelle Amérique, ils n'avaient pas d'Amérique à cause de ça. Et le natif a donc dit, je soutiens. Moi, je soutiens sans condition, mais j'essaie d'influencer. Et tout le monde était évidemment très content là-bas que le grand natif, qui était déjà à l'apogée, si vous voulez, de sa carrière, tout le monde le connaissait, le grand Rosh Yeshiva de Wologine. Et donc, évidemment, que là-bas, chez les Amants de Sion, ils étaient très contents de l'avoir comme dirigeant. Ils l'ont donc nommé un des six grands dirigeants du mouvement. Mais il a tout de suite demandé à avoir le protocole des réunions précédentes. Il voulait savoir dans le détail ce qui s'était arrivé, quels sont les villages qui étaient créés, par qui, comment ça se passe sur place. Et pas seulement ce qui concernait la pratique de la Torah des Mitzvot, mais également les problèmes humains qu'ils pouvaient rencontrer là-bas, comment ils s'en sortaient au niveau économique, etc. Et c'est très intéressant de voir cet homme qui était plongé dans le monde de la Torah du matin jusqu'au soir, et que ça lui prenait vraiment tout le temps, s'occuper du yeshiva comme ça avec des centaines d'élèves, c'est pas évident, il fallait les nourrir, il fallait les loger, etc. Et voilà que il trouvait du temps pour s'occuper de ça et lui-même donner de sa personne pour que ce mouvement se développe et qu'il y ait de plus en plus de juifs en Eretz Israël. C'est assez impressionnant en effet.
Et c'est probablement significatif de savoir que son fils, qu'il a eu tardivement, hein, Meir Berlin, qui était l'ami du Rav Kook, a été l'introducteur aux États-Unis du mouvement sioniste religieux, le mouvement Mizrahi, que l'université Bar-Ilan, eh bien, à Ramat Gan, porte son nom. Et puis, on lit aussi dans votre livre que les éléments biographiques qui nous sont parvenus sur son père, sur le natif, eh bien, c'est grâce à lui et la biographie qu'il a essayé d'écrire.
Ouais, il a écrit une très jolie biographie. C'est pas évident d'écrire une biographie sur son père. j'en connais quelque chose.
Ouais.
il faut être à la fois objectif, et puis à la fois, c'est son père, quoi, on ne peut pas faire autrement. Donc, mais c'est vrai que Barilan, il s'appelait Barilan parce qu'il a hébraïsé son nom, c'est-à-dire Berlin est devenu Barilan. Et en effet, la faculté, la fameuse université de Barilan, porte son nom, à Ramat Gan. Et on a d'ailleurs un kibboutz qui porte le nom d'une native dans la vallée de Beit Sha'an, et un kibboutz qui s'appelle Eina Native. Native, en effet, c'est les premières lettres de son nom, mais en même temps, ça veut dire stable, ça veut dire quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, vous voyez, le natif, un gouverneur. Et en effet, il donnait de lui cette image de quelqu'un sur qui on pouvait vraiment s'appuyer, le sage de la génération, à qui on demandait conseil, etc., etc. Et à part la biographie de son fils, il y a eu d'autres écrits sur lui. Qui ont été faits au fur et à mesure que le temps a passé, mais il n'y avait pas réellement, devant le public francophone, il n'y avait rien. Et il n'y a pas non plus, et jusqu'à aujourd'hui, je crois que ça manque, un ouvrage qui prenne en compte pas seulement sa vie, mais également qui fasse une étude détaillée sur sa méthode pour apprendre toutes les matières, les disciplines de la Torah, y compris Talmud. Ça a été fait de manière partielle et pas de manière complète. Ça, on laisse ça aux prochains historiens.
Alors, on vous lit hein, avec beaucoup d'attention, c'est un vrai plaisir et on a l'impression que le natif a relevé tous les défis qui se sont présentés dans la modernité, dans le monde pieux qu'il représentait. Mais
Oui.
est-ce qu'il y a un ou plusieurs défis qu'il n'a pas su relever?
Alors, il a essayé de relever, mais c'est vrai que pour ce qui est de la Scala, comme on le sait, finalement, les jeunes juifs ont abandonné la Torah et les mitzvot avec une facilité assez déconcertante, quoi. En fait, le même phénomène qui est apparu quelques années avant en Europe de l'Ouest, à partir du moment où les portes des universités ont été ouvertes, il y a eu une sorte de désertion du monde des yeshivot, et les rabbins ont été très. On parlait tout à l'heure du Rav Hirsch, qui était un des seuls finalement qui avait réussi à garder autour de lui la jeunesse étudiante de Francfort, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup. C'est-à-dire, en général, ça a été une grande découverte pour ces jeunes juifs de sortir du monde du Talmud et de voir autre chose. Ils n'avaient pas les moyens de pouvoir se confronter à tout ça. Et le natif a essayé de son côté d'expliquer que finalement on avait besoin. Et du monde du Chol et du monde du Kodesh. Le problème avec ça, c'est que quand vous êtes responsable d'une yeshiva, vous ne pouvez pas non plus accorder du temps sur l'étude de la Gemara et du Talmud, du temps précieux donc pour les études générales, puisque les études générales également, ils sont sans fin, c'est-à-dire on peut rajouter, 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 puis au bout d'un moment, c'est sur le compte de quelque chose. Et évidemment, il y a une politique des tsars de l'époque qui était une politique de russification du judaïsme, et Volozhine, c'était un petit peu la bête noire, quoi. Volozhine, c'était le contraire. On formait des jeunes avec une identité juive très prononcée, et toute l'équipe du Tsar pensait que c'était contre-productif et qu'on n'y arriverait jamais à assimiler ces juifs si on continuait à faire ça. Donc, au fur et à mesure, ils ont demandé que la yeshiva intègre dans son programme des matières non juives. Au départ, le natif n'a pas vu ça d'un mauvais œil, tant que c'était encore quelque chose de gérable. Puis quand il a vu qu'il fallait apprendre le russe, qu'il fallait apprendre la culture, la civilisation, les livres, etc., et il s'est dit que il a compris que c'était fait en fait pour pouvoir remplacer l'étude du Talmud, alors il a dit aux autorités qu'il ne pouvait pas continuer sur cette voie-là. Et c'est ça qui a fait que la yeshiva a fermé. Il ne pouvait pas continuer. Alors il avait plein de dettes, le pauvre. Il voulait absolument partir en Israël. C'est-à-dire, puisque la yeshiva n'existe plus, ben, je n'ai pas un intérêt ici, je pars, je fais mon avenir. Donc il voulait partir. Malheureusement, il était déjà un petit peu âgé. Et les médecins lui ont dit, c'est un voyage trop long, trop périlleux. Il faut attendre l'été, les beaux jours. En attendant, va aller voir les médecins de Varsovie. Et là-bas, attends l'été. Il est allé voir les médecins de Varsovie. Et il a attendu l'été. Mais après, finalement, il est décédé juste avant de pouvoir la faire, cette fameuse aliyah. Donc un petit peu sur les comme Moshe Rabbeinu, il a voulu y aller, mais il n'a pas pu. Par contre, là, une petite anecdote que je raconte aussi dans le livre à la fin, il n'a pas pu y aller, mais quand il était encore à Varsovie, quelque temps avant sa mort, on lui amène une bouteille de vin. Une bouteille de vin de Rishon LeZion, une des premières bouteilles que les Juifs avaient réussi à produire et même donc à exporter, en tout cas, c'est arrivé jusque là-bas. Et il a eu les larmes dans les yeux en voyant cette bouteille de vin qui venait d'Eretz Israël. Il a fait chez Riano, la bracha qu'on fait, c'est la bénédiction qu'on fait quand il y a des choses exceptionnelles qui arrivent dans la vie. Et il a dit cette phrase, il a dit quelle chance nous avons de pouvoir déguster du vin qui a été fait par des mains juives en Eretz Israël. Des choses qui aujourd'hui nous paraissent heureusement normaux et un peu triviales, mais à l'époque, il faut comprendre l'émotion du natif qui avait un amour fou d'Eretz Israël, un amour fou de tout ce qui se passe là-bas et une volonté réelle, si ce n'est d'y vivre lui-même parce qu'il ne pouvait pas, au moins d'y envoyer, d'encourager ses élèves à faire. Et vous avez bien fait de rappeler que l'un des élèves les plus proches, c'était le Rav Kook, qui est devenu, comme on le sait plus tard, le grand rabbin d'Israël,
Premier, oui.
avant qu'Israël ne soit créé. Et surtout, l'homme qui a pensé, qui a écrit, qui a réussi à donner ses lettres de noblesse à ce qu'on appelle aujourd'hui le courant du sionisme religieux. Et certainement que le natif a eu une influence sur le Rav Kook, qui d'ailleurs a appelé son fils Tzvi Yehuda en l'honneur de son maître Naftali Tzvi Yehuda. Voilà.
Vous connaissez bien le monde des yeshivot, notamment en Israël. Est-ce que la figure du natif reste connue? Est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, ses apports sont toujours perçus en monde juif?
Alors, le natif est très apprécié et très connu. D'abord, son commentaire sur le fromage est pratiquement connu tout le monde, même si les gens ne l'étudient pas systématiquement, mais tout le monde sait que ça existe. Alors, en train de dire Shiva, vous dites un mec d'avant, on sait pas. Ensuite, on étudie dans les Shivot, on étudie souvent les responsables du natif, où il a donné des réponses de halakha sur toutes sortes de problèmes qui se posait à son époque, donc on consulte assez régulièrement, et les ouvrages de base qu'il a écrits sur les Gaonim également. Ceci dit, sur sa vie en général, et sur, par exemple, son attache au mouvement sioniste avant la lettre, bah ça, évidemment, vous ne trouverez pas dans les yeshivot qui, jusqu'à aujourd'hui, ont des réserves plus ou moins importantes concernant le sionisme et ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Par contre, dans la mouvance du sionisme religieux, le natif est étudié également. Pour ça, pour l'apport qu'il a, pour le soutien qu'il a donné au grand mouvement de retour qui commençait justement à son époque.
Pour conclure, il y a une question classique mais difficile dans cette émission. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de la fréquence juive de lire votre essai, qu'est-ce que vous leur diriez?
En une phrase?
En une ou deux phrases.
Eh bien, si vous êtes curieux de savoir comment est-ce que, sans quitter le monde de la Torah, on peut malgré tout réfléchir de manière audacieuse et de manière originale aux défis que pose la société contemporaine et moderne, et si vous pensez que c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on y est confronté, eh bien, le natif, c'est la personnalité qu'il faut essayer de découvrir. Ça nous apporte beaucoup de choses, y compris pour le monde d'aujourd'hui.
Merci infiniment, Elie Kling, d'avoir parlé avec nous de votre actualité. Donc, la parution de Relever le défi, la vie et l'œuvre du natif de Vologine aux éditions Lishma. Donc, un livre qu'on recommande hein, pour tout public. Faut pas imaginer que c'est uniquement pour un public.
Non, c'est pas ardu, c'est pas ardu.
C'est pas ardu et c'est vraiment un livre passionnant sur une personnalité finalement méconnue du monde juif en général. Merci, à très
Merci
bientôt.
à vous, merci de m'avoir invité.